Mais tout de suite, cet entrelac sur RCF a comme promis un regard sur l'actualité genevoise tous les mois, en lien bien sûr avec la Haute-Savoie. Et c'est André Colli qui nous a rejoint pour ce mois de janvier. Bonjour André.
Bonjour Stéphane.
Alors je disais un regard sur l'actualité genevoise, même si André, pour ce numéro, on va déborder cet espace géographique.
Oui, tout à fait, puisque nous irons jusqu'à Saint-Maurice, à l'autre bout du lac Léman, là où les montagnes enserrent le Rhône, dans ce qu'on appelle le défilé de Saint-Maurice. Pour Saint-Maurice, l'année 2015 est celle d'un anniversaire exceptionnel, le 1500e de la fondation de son abbaye.
Alors vous dites anniversaire exceptionnel, excusez cette question de béotien, mais une abbaye 1500 ans, est-ce que c'est si rare ?
Non, ce n'est pas si rare, mais la fondation d'un monastère qui dure pendant 15 siècles, ça c'est tout à fait rare. Il y a de nombreux monastères qui ont été créés, en France notamment, bien avant l'an 515, mais ils ont passé par les destructions, la sécularisation, les révolutions, les ruptures. En fait, en Occident, il n'existe qu'un seul monastère qui a 15 siècles de continuité, c'est l'abbaye de Saint-Maurice sans césure.
Alors l'abbaye a donc été fondée en l'an 515. Est-ce qu'on est bien sûr de cette date ?
La date est parfaitement attestée. Il y avait l'évêque de Vienne, Saint Avit, qui est venu le 22 septembre à Agone, parce que c'était le nom de l'époque donné à ce lieu. Et on avait donné l'ordre sur la demande du roi Saint Sigismond, le roi Burgonde, de chanter la louange perpétuelle, c'est-à-dire la Laus Perennis. Autrement dit, des équipes de moines se relayaient pour qu'à l'intérieur de l'église soit chantée la louange de Dieu à travers les psaumes, 24 heures sur 24.
Et pourquoi ce roi Sigismond avait-il choisi ce lieu pour fonder un monastère ?
Eh bien, parce qu'Agone, c'est le nom de ce lieu, avait été le théâtre d'un drame. Une légion romaine, avec Maurice à sa tête, a été martyrisée ou tout au moins décimée à la toute fin du 3e siècle. Alors à Saint-Maurice d'Agone, on avait gardé une vénération pour Maurice et ses compagnons et on avait conservé les reliques de ses saints. Ce lieu était déjà clairement chrétien. Alors sur cette époque, je vous propose un premier invité, c'est Charles Bonnet de Genève, qui lui est un archéologue de réputation internationale, qui connaît le monde entier, mais en particulier Saint-Maurice.
Le moment de la christianisation, c'est un moment fascinant. La population est complètement troublée. Elle passe d'un culte où elle avait un rapport direct avec certains dieux romains, et puis tout à coup on leur dit, s'il y a un changement. Maintenant, il n'y a plus qu'un Dieu unique. Son fils a été crucifié, ce qui devait être une publicité un peu négative, parce qu'à l'époque, on ne se faisait pas crucifier pour des idées, ou rarement. Donc, ce changement est fondamental, et pourtant, il va, comme une traînée de poudre, envahir toute l'Europe. Entre autres, le massif alpin, où nous sommes, mais aussi le nord de l'Europe, tout le bassin méditerranéen, jusqu'au Soudan, où il y a des emplacements, des sièges épiscopaux également. Il y en a trois très importants. Mais le cas de Saint-Maurice est plus extraordinaire, puisque là, on doit avoir un lieu célèbre par le martyr de la Légion thébaine. C'est un lieu funéraire qui a eu une importance considérable dans toute la chrétienté et qui aujourd'hui encore a conservé cette importance.
Vous n'avez aucun doute sur l'existence du martyr à l'origine ?
Or, on peut avoir des doutes sur la provenance, sur les détails, mais il est incontestable que Saint-Maurice a eu une influence énorme depuis le IVe siècle. Cela veut dire que il y a l'existence d'un fait qui nous échappe partiellement, bien sûr, parce que c'est une période très ancienne, mais il y a aussi la foi qui a engendré ce martyr. Le résultat est là, donc nous devons accepter cette idée et elle est suffisamment enthousiasmante pour qu'on l'accepte.
Les martyrs de la Légion thébaine, dans le fond, sont morts parce qu'ils ne voulaient pas tuer d'autres chrétiens, du moins c'est une version. Mais cela veut dire qu'il y avait des chrétiens déjà qui étaient présents. D'où venait-il ? D'où a essaimé ce christianisme lié à la région de la vallée du Rhône, en Valais, et celle de Genève ? Y a-t-il une différence ?
Alors là, on a deux provenances assurées, celle par le conduit rhodanien, Et on en a la preuve à Genève avec cet immense groupe épiscopal qui existe dès le IVe siècle. Et puis on sait aussi qu'à Lyon, à Vienne, il y a des martyrs, il y a des premiers chrétiens qui viennent d'Orient déjà au cours du 1er siècle. Donc je dirais que le mouvement chrétien existe bien avant de la réalisation de grands monuments et de l'organisation au fond de ces premiers groupes épiscopaux avec des évêques. Mais parce qu'au fond, les évêques prennent le relais des gouverneurs romains. Donc c'est un changement considérable dans l'organisation même de la population. Dès lors, il faut admettre que dès le 1er siècle, on a une influence qui vient d'Orient et on est au courant de ce qui s'y passe. C'est une époque où il y a le développement de plusieurs nouveaux cultes orientaux, comme celui d'Isis, comme celui de Mithra et bien d'autres. Et les chrétiens sont dans cette influence générale, dans ce développement général de cette période troublée. Vous savez, au fond, le premier, le deuxième et le troisième siècle, c'est une époque très troublée. Et au début, c'est l'Empire romain, c'est la force romaine, puis peu à peu, les choses se désagrègent par bien des aspects. On retrouve certaines difficultés, certains problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Où trouver une force qui nous donne un équilibre et qui nous permet d'envisager l'avenir dans de bonnes conditions. C'est un peu la situation des premiers chrétiens. Alors, on a une influence générale où on sent que des idées nouvelles se développent, surtout à partir du IIIe siècle, et les chrétiens, finalement, sont les plus forts et vont s'organiser à partir du début du IVe siècle. Et nous avons des vestiges qui nous assurent que l'organisation générale se fait au cours du IVe siècle. Et alors il est intéressant de savoir qu'on a quand même deux grands évêques de l'époque, Théodore en Valais et Isaac à Genève, qui organisent cette population, qui leur donne des réponses sous la forme de nouveaux bâtiments. Et ces bâtiments sont analogues, puisqu'on peut les comparer, c'est une chance archéologique que nous avons aujourd'hui, avec la création d'églises, d'annexes, de salles de réception, etc. Eh bien, ça, on le voit aussi bien à Martigny qu'à Saint-Maurice et qu'à Genève. Donc, il y a beaucoup d'analogies dans la manière de construire, dans la manière d'organiser les choses. Ce qui est peut-être le plus extraordinaire, c'est le baptistère. En effet, dans ces trois lieux, nous avons des baptistères. Le baptistère, c'est le monument symbolique qui est au centre de la composition architecturale qui se développe dans ces trois sites.
Eh bien, Charles Bonnet, nous allons sur place directement puisque nous allons retrouver le chanoine Antoine Salina pour visiter le site archéologique et le trésor. Et nous voici avec vous, chanoine Antoine Salina. Nous sommes précisément à l'entrée du site archéologique dans une présentation entièrement nouvelle. Charles Bonnet nous disait son importance. Alors, comment décrire cet espace pour ceux qui nous écoutent ?
Alors, c'est un espace qui a été extrêmement bien mis en valeur, comme vous l'avez dit justement. Et on y travaille ici depuis presque 70 ans. Dans les années 40, déjà, il y avait à la suite de la chute du rocher les fouilles qui avaient été conduites par M. Blondel. Déjà avant, le chanoine de Bourbon à la fin du 19e siècle. Et puis, nous sortons maintenant d'à peu près 20 ans d'une nouvelle campagne de fouilles qui se sont servies des acquis qui précédaient, mais ont affiné aussi tous les résultats. C'est un lieu, beau, que je qualifierais paradoxalement de serein. Nous sommes entre l'abbaye et un rocher qui fait à peu près 200 mètres de haut et nous avons devant les yeux une assez grande complexité de soubassements, fondations, murs, tombeaux de divers siècles. Mais ce qui est intéressant de comprendre ici, et je crois que la nouvelle muséologie le souligne bien, c'est que nous avons ici plus de 16 siècles d'histoire chrétienne et naturellement une histoire encore plus longue puisqu'il y avait ici une présence romaine. Donc le visiteur ou le pèlerin ou le visiteur qui devient pèlerin, je ne sais pas comment le nommer, est invité à se laisser imprégner d'une aussi longue histoire. Et je crois que l'ensemble est bien réussi dans sa présentation.
Et on a le souvenir très direct de Saint-Maurice lui-même.
Bien évidemment, puisque c'est Saint Théodule, premier évêque attesté du Valais, qui était résident à Octodure, Martigny actuellement, qui a relevé les restes des martyrs à la fin du, au dernier tiers du 4e siècle, donc, et a transporté ses restes au pied de ce rocher où il a fait construire une première église avec certainement un premier petit hospice pour recevoir déjà les voyageurs pèlerins. Et ça n'a cessé depuis de se développer jusqu'à la fondation très officielle de l'abbaye de Saint-Maurice en 515, dont nous possédons encore le serment de dédicace de Saint-Avit, évêque de Vienne, qui a été aussi pas pour rien dans la fondation de cette abbaye.
Et depuis ce site archéologique, nous pouvons accéder directement au trésor. Alors pourquoi n'emploie-t-on pas le mot de musée ?
Eh bien ça vient déjà d'une volonté de l'ensemble de la communauté de Saint-Maurice, car on a toujours parlé du trésor de l'abbaye en le mettant bien soigneusement en lien avec l'argument qui est essentiellement liturgique, de témoignage, et c'est le trésor des reliques. Donc nous ne sommes pas un musée, si beau fut-il, comme le Louvre ou autre, mais nous sommes véritablement dans un lieu qui invite à la prière et d'une certaine manière qui peut être perçu aussi comme un sanctuaire. Et pour naturellement ceux qui ne croiraient pas ou ne partageraient pas les mêmes convictions que nous, eh bien on entre vraiment dans un lieu où les pièces sont présentées de telle manière qu'elles sont une invite au moins à la réflexion et peut-être aussi une invite spirituelle.
Chanoine Antoine Salina, vous parliez du Louvre. Or, un certain nombre de pièces sont passées par le Louvre cette année.
Effectivement, nous avions eu il y a quelques années la visite du directeur du musée du Louvre et de quelques collaborateurs. Et quand ils ont su qu'on allait mettre le trésor entre parenthèses, ils se sont dit que pour eux c'était aussi une belle opportunité. Et finalement, nous avons décidé en chapitre de communauté que nous pouvions nous permettre de faire cela. Et c'est pourquoi une soixantaine de pièces du trésor de Saint-Maurice sont parties pour une exposition au Louvre qui a duré de mars à fin juin de cette année 2014. Et je crois que c'était un très grand succès. Et je dois dire, pour avoir fait le déplacement là-bas, qu'ils ont respecté vraiment d'une manière très touchante la vocation de l'ensemble de ces pièces.
Il y avait même les châsses contenant les restes des martyrs.
Il y avait quelques châsses. En fait, vraiment, il y en avait une d'importance, les autres étant considérées comme trop fragiles pour faire le voyage. Parce qu'il nous faudra effectivement nous résoudre à les restaurer, mais vous pouvez imaginer que ça n'est pas si simple que ça. Mais effectivement, il y avait les châsses qui ont été exposées là-bas.
Alors, si vous le voulez bien, chanoine Antoine Salina, nous allons nous rendre au musée et vous allez nous présenter l'une ou l'autre pièce de votre choix.
Cinq panneaux, la oui. Constitution de l'abbaye à différentes étapes de l'histoire.
Nous pénétrons dans la salle du trésor, juste une phrase nous frappe en entrant.
Sanguis Martyrum, Semen Christianorum. En fait, nous avons voulu accueillir le visiteur par cette phrase, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et c'est cette phrase, avant même le reste du trésor, qui nous accueille.
Voilà, nous tombons sur le chef reliquaire de Saint-Candide.
Alors ça, c'est un admirable chef reliquaire du XIIe siècle. Il a été créé certainement à l'abbaye à l'époque. Et il nous représente Saint-Candide, qui était un des proches de Saint-Maurice à la tête de la Légion thébaine. C'est un chef reliquaire parce que dans la tête, au sommet du crâne, vous avez un petit couvercle. Et ce chef reliquaire était rempli de reliques des martyrs. Il est encore rempli de reliques. Et vous avez devant représenté la passion des martyrs avec une décollation de Saint-Candide et un ange qui recueille en ses bras un enfant nu qui dit finalement l'âme du saint rejoignant le ciel. Et vous avez ici que, en l'échange de la mort, son esprit gagne les astres, son esprit reçoit la vie. Et donc c'est vraiment ce chef reliquaire qui nous accueille en ce trésor. Puisque nous sommes contingentés dans le temps, j'aimerais vous présenter quelque peu la chasse de la Benantème, qui n'est certes pas l'objet le plus splendide de notre trésor, mais dont on connaît l'exacte histoire, parce que vous avez ici une théologie typologique, typiquement augustinienne, qui est représentée, puisque c'est Nanthelme, abbé de Saint-Maurice, qui a choisi de relever les restes des martyrs qui étaient du côté des catacombes actuelles du Martelet, et les a transportés dans cette chasse pour rapprocher la chasse de l'autel et rapprocher le culte des martyrs du culte eucharistique, puisque la véritable finalité du martyr, le témoignage, c'est le témoignage au Christ vivant ressuscité que nous célébrons dans l'Eucharistie. Vous avez le Christ qui est représenté avec de la naissance jusqu'à sa crucifixion. La naissance du Christ est mise en face exactement de la décollation de Saint-Maurice, c'est-à-dire c'est la naissance à la vie. Et de l'autre côté, la crucifixion en face de Saint-Maurice sur son trône, puisque la croix est trône de gloire pour le Christ.
C'est tout à fait extraordinaire, mais je crois que pour prévenir les frustrations inévitables, il n'y a qu'à inviter à venir voir le trésor. Je vous remercie, chanoine Antoine Salina, et je vais rejoindre maintenant quelqu'un qui s'est passionné pour inventorier les lieux de culte dans le monde, des lieux de culte dédiés à Saint-Maurice. C'est l'ancien magistrat Jean-Jacques Rébellet, par ailleurs coprésident du comité du Jubilé. Alors, une première question, combien de Saint-Maurice de par le monde ?
Actuellement, on en compte plus de 900 qui s'échelonnent, si l'on peut dire, dans le paysage géographique depuis la Californie jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un éventail très très large dans le monde entier, avec bien sûr une prédominance en Europe, en particulier France, Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, mais les autres pays européens aussi, jusqu'en Tchéquie, en Pologne. C'est très très intéressant de voir cette diffusion.
Alors parlons particulièrement de la France.
Oui, alors la France, on peut le dire, tient la première place et très solidement, ne risque pas d'être battue sur ce plan-là, puisque en France, on compte actuellement 498 églises dédiées à Saint-Maurice, avec une dispersion dans l'ensemble du territoire français assez remarquable, avec des préférences, bien sûr.
Quand on dit église, on dit chapelle, grande église, cathédrale ?
Alors évidemment, toute la gamme y est, depuis la basilique à la cathédrale, en passant par l'église paroissiale, et puis les chapelles, parmi lesquelles il y a effectivement de petits bijoux. Et la plupart du temps, ce sont de très anciennes chapelles avec un style. Mais on a pratiquement toutes les catégories de lieux de culte, non seulement d'ailleurs dans l'importance, mais aussi au niveau religieux, aussi bien orthodoxe, réformé, en Allemagne en particulier, beaucoup d'églises qui ont conservé cette dédicace à Saint-Maurice, avec notamment Magdebourg.
Et autour d'Annecy ?
Alors autour d'Annecy, si on prend d'une manière large, la Haute-Savoie en compte déjà 38 à elle seule, et si on lui adjoint la Savoie, ça en fait 27 de plus, donc on s'aperçoit qu'il y a là une dévotion toute particulière, et d'ailleurs à Saint-Maurice, lors des fêtes de la Saint-Maurice, qui ont toujours lieu le 22 septembre, la venue de pèlerins de Savoie et de Haute-Savoie est très très importante, et cela historiquement, puisque Saint-Maurice était le patron de la maison de Savoie. Mais on peut encore rajouter l'Ain, qui n'est pas si éloigné avec 27 églises, donc on est là dans un terreau très fidèle à Saint-Maurice.
On peut dire concurrence avec Saint-Martin ?
Ah, je ne crois pas qu'il faut le voir comme ça. Je ne pense pas qu'il fasse des concurrences au niveau de la sainteté. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun reconnaisse ses saints. Et en ce qui concerne plus particulièrement Saint-Martin, qui a une diffusion extrêmement importante, non seulement en France, mais plus largement en Europe, il est très clairement sur le podium, pour reprendre une expression que j'ai déjà utilisée. Donc Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Louis, même combat.
Un dernier mot, Jean-Jacques Rébellet. Les paroisses concernées par Saint-Maurice savent-elles qu'il y a ce jubilé ?
Oui, nous avons pris soin au début de la préparation de l'année jubilaire de nous adresser à ce qui constituait encore que 750 églises. Nous sommes adressés aux paroisses qui détenaient ces églises dédiées à Saint-Maurice, en prenant la précaution aussi d'informer les diocèses, en particulier les diocèses français, qui sont pratiquement tous concernés par des églises dédiées à Saint-Maurice. Nous les avons informés de cette année jubilaire et nous les avons invités à venir pèleriner à Saint-Maurice sur les lieux du martyr.
Alors, il y aura certainement des visites d'ici le 22 septembre prochain. D'ailleurs, chaque 22 septembre, à la Saint-Maurice, on chante ce chant tout à fait impressionnant qui est le chant des martyrs. On va l'écouter pour quelques mesures avant de retrouver le Père Abbé. Comme attestation de l'impressionnante continuité de l'abbaye à travers 15 siècles, il y a symboliquement la numérotation des abbés. Abbé Joseph Reduit, Monseigneur Reduit, quel est votre numéro d'ordre ?
Alors je suis le 94e abbé de l'abbaye de Saint-Maurice. On a le nom inscrit sur une pierre du premier abbé, Ibnemodus, Ibnemod, qui était un Burgonde. Il n'a fait qu'une année, de 515 à 515. Et depuis, on s'est successivement mis ici au service de la communauté. Et voilà que je suis bientôt le 100e.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des saints dans la liste des abbés de Saint-Maurice ?
Je ne sais pas s'ils ont été proclamés saints. Il n'y en a pas beaucoup. Dans les premiers siècles, oui, on a Saint Ambroise et autres. Mais je pense que peut-être c'est eux qui ont sanctifié les communautés.
Enfin, vous savez quel est votre programme à cet égard. Parlons de la Laus Perennis, la louange perpétuelle. On en parle souvent à propos de l'abbaye de Saint-Maurice. Comment ça se passait en fait ?
Alors, c'est une tradition venue d'Orient, probablement par Jean Cassien, où il a vu des moines qui priaient jour et nuit. Et lors de la fondation de l'abbaye en 1615, le roi Sigismond, accompagné par saint Avit, évêque de Vienne en Dauphiné, ont voulu pour ici à Saint-Maurice la louange perpétuelle. Et il a fait venir des moines d'autres monastères, ça veut dire qu'il existait déjà des monastères, puis eux n'ont pas perduré tout le temps, mais ces autres monastères ont fourni des moines qui ont prié jour et nuit, ça a duré en tout cas jusqu'à l'époque carolingienne. À l'époque de Charlemagne, c'est l'époque où on a des paroisses qui naissent. Alors, sur la demande de Charlemagne, et entre autres, on demande que ces moines sortent un petit peu pour aller au service des paroisses. Si on passe de l'ordo monasticus à l'ordo canonicus, autrement dit, de moines aux chanoines.
Et alors aujourd'hui, comment se passent les offices ?
Alors aujourd'hui, les offices, c'est 4 fois par jour, puisque nous sommes semi-actifs. Avec de l'enseignement, des services divers dans les paroisses. On a un office le matin à 6h15 jusqu'à 7h, 7h10. Un deuxième office très court à midi, l'office milieu du jour. Et le soir à 18h, messe et vêpres, et à 20h complis. Si bien que la grande partie de la matinée, grande partie de l'après-midi sont libres pour vaquer à d'autres occupations pastorales.
Monseigneur Reduit, comment se présente aujourd'hui votre communauté ?
Alors aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de confrères qui vieillissent. J'ai connu l'époque peut-être la plus glorieuse de toute l'histoire de notre abbaye, puisque j'ai été ordonné en 1965, et à l'époque on était 140. Et aujourd'hui, 50 ans après, on est 40. 2 décès par année, c'est assez normal, une centaine qui décèdent, mais on n'a pas été renouvelé dans le nombre. Mais ce n'est pas qu'une question de nombre, c'est l'histoire d'une longue fidélité, et il suffit qu'il y ait quelques uns pour perdurer ici et signifier cette longévité.
Évidemment, dans l'histoire de 15 siècles, il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être eu beaucoup moins de chanoines qu'il n'y en a aujourd'hui, à certaines époques difficiles, alors que dans d'autres abbayes du monde, on fermait tout simplement. Les révolutions arrivaient, il se passait des réformes. Et ici, la grande particularité de Saint-Maurice, c'est la continuité sans aucune interruption pendant 15 siècles.
Alors effectivement, c'est ça. Effectivement, il y a eu des hauts et des bas, ne serait-ce qu'au niveau des catastrophes. On a une église qui a été écrasée en 1611, un clocher qui a été détruit en 1942, ça c'est plus récent, l'abbaye elle-même qui a brûlé en 1693. Il y a eu toutes sortes de malheurs et des augmentations, des diminutions de personnes. Ici, effectivement, je crois que c'est à l'époque de la réforme protestante, on était le moins nombreux. On a même hésité de passer à la réforme ou pas. Et puis on est resté du côté catholique.
Et toute cette histoire, que dit-elle de la Providence ?
Alors effectivement, elle est entre les mains de Dieu. Si elle doit durer, elle durera. Si elle ne doit pas durer, bien c'est d'autres qui feront ce service de la vie religieuse au service d'une communauté plus large. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec des laïcs, ne serait-ce que les célébrations de ce 1500e, où une soixantaine de laïcs travaillent avec nous bénévolement depuis 5 ans maintenant pour cette année jubilaire. C'est-à-dire qu'on peut travailler différemment avec moins de monde prêtre, mais avec plus de laïcs.
L'abbaye Saint-Maurice, une abbaye de 15 siècles, que nous quittons avec un organiste réputé, n'est-ce pas André Colli, qui nous avait fait partager ce reportage d'Entrelacs pour ce mois de janvier.
Oui, l'organiste, le chanoine Georges Athanasiades, dans l'une de ses compositions. Il a 86 ans et cela fait, tenez-vous bien, plus de 60 ans qu'il tient l'orgue de la basilique de Saint-Maurice.
Alors cette abbaye, elle espère, m'a-t-on dit, la visite prochaine du pape François?
Oh là là, une invitation a été faite, bien sûr, déjà au temps de Benoît XVI. Et il est vrai que le pape François pourrait honorer une telle abbaye, surtout en cette année proclamée année de la vie religieuse. Le fera-t-il ou non, on ne sait pas. Ce serait la 6e visite d'un pape au cours de l'histoire à Saint-Maurice. Mais on sait que le calendrier du pape est déjà bien chargé et qu'il viendra en France d'abord.
Tout à fait, il viendra en France cette année. On ne connaît pas encore exactement son parcours, mais il a dit quand même, hein, vous l'avez entendu du côté de Genève, qu'il irait dans un endroit où aucun pape n'est allé, hein.
Exactement. Alors, comme il y a beaucoup d'endroits, il faut attendre.
Eh bien, on va patienter. Merci beaucoup, André Colli.
Merci, Stéphane.
Voilà pour ce numéro d'Entrelacs qui nous propose ce regard sur l'actualité suisse, hein, un regard culturel et spirituel. C'est tous les mois, bien sûr, sur RCF, à écouter sur rcf.fr.